Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dieu est vivant et il agit dans la vie de tous ceux qui placent leur confiance en lui.
La Bible le déclare. L'Éternel se révèle à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Aujourd'hui, nous allons écouter un témoignage et Yann va nous présenter notre invité.
C'est une réelle joie d'accueillir de nouveau Jean-Luc sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Jean-Luc est ancien dans une église évangélique de la ville de La Roche-sur-Yonne, située à l'ouest de la France. Il a déjà participé à nos émissions en nous faisant part de quelques méditations bibliques. Mais aujourd'hui, et pendant toute une série d'émissions, il nous parlera de la manière dont le Seigneur Jésus est entré dans sa vie et du privilège de le connaître. Durant sa jeunesse, Jean-Luc était un passionné de sport. Mais de quel sport s'agissait-il?
C'est peut-être pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir assez souvent, c'était du parachutisme. J'ai découvert le parachutisme à l'armée. Bon, à l'armée, c'était pas tellement réjouissant, peut-être, mais dans le civil, après, j'ai trouvé que c'était un sport très intéressant.
Pourquoi ce sport-là? Et que lui a-t-il apporté?
Alors, il y avait un petit peu le défi et, le fait de faire quelque chose de différent, mais je crois que c'était surtout, maintenant, je l'analyse un peu comme une recherche de quelque chose de plus fort, et qui m'a conduit à pousser mes limites un petit peu. Je crois qu'on est tous un peu comme ça, à rechercher quelque chose qui nous sorte de l'ennui, qui nous apporte un plus. Moi, je l'avais trouvé dans le parachutisme.
Jean-Luc va nous parler à présent de l'émotion procurée en sautant d'un avion.
Oui, alors l'émotion, il y en a beaucoup, parce qu'il faut quand même se jeter dans le vide. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, on apprend ça petit à petit, et puis on apprend surtout qu'on a un matériel très très fiable sur le dos, mais c'est quelque chose que je crois une émotion qu'on retrouve pas dans d'autres sports. Et puis on est là-haut, on voit le ciel, on voit la terre, et c'est quelque chose de très particulier, de très fort. C'est un très beau sport.
La pratique de ce sport était pour Jean-Luc plus qu'un simple passe-temps. Il s'est mis à participer au championnat sur le plan national, puis international, ce dont il va nous parler maintenant.
Alors oui, quand ça plaît comme ça et qu'on veut toujours aller plus loin, on rentre dans un engrenage, si on peut dire, et puis donc avec 4 copains, là, on a monté une équipe, et puis de championnat en championnat, on s'est trouvé à participer au championnat de France, et puis même au championnat du monde une année. On avait une discipline un petit peu particulière qui consistait à ouvrir le parachute aussitôt la sortie de l'avion et à empiler les voiles de parachute les unes sur les autres. Alors à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans de ça, c'était vraiment une première. Il y avait encore quelques dangers, mais beaucoup d'excitation, beaucoup d'adrénaline. Mais on est allé à très haut niveau. C'était un petit peu comme une drogue, je peux dire. C'était vraiment une drogue, la drogue d'être le premier sur le podium, puis là, la gloire aussi, hein, la gloire de quand on se pose devant les foules, d'être applaudi, et un petit peu comme un dieu qui descend du ciel. Hein.
On pourrait penser que Jean-Luc était comblé par la vie qu'il menait, et je lui ai demandé si cela était bien le cas.
Alors, on pourrait penser effectivement que quelqu'un qui, comme ça, qui a l'air souriant, qui fait ses choses grandioses et tout, on pourrait penser oui, qu'il est heureux dans sa vie, et puis que tout va bien. En fait, c'était pas forcément le cas, quoi. Hein, parce que dès qu'on revient les pieds sur terre, les choses redeviennent normales et puis les problèmes aussi n'ont pas changé. C'était juste un moyen d'évasion, en fait.
Jean-Luc analyse davantage ce qu'il ressentait à cette époque.
En fait, au travers de toute cette vie-là de succès, je me rendais compte quand même le soir chez moi que j'avais un malaise et qu'il manquait toujours quelque chose. Hein, et comme je l'ai dit, on recherche ce qu'il y a de nouveau. Je sais qu'avec les amis, on avait prévu d'aller faire des sauts de falaise, de montagne aux États-Unis, ce qui s'appelle le base jump maintenant. Mais d'un autre côté, je me disais, mais même si je pouvais toujours faire plus, je savais au fond de moi-même ce qui me manque, je le trouverais jamais, quoi. Mais sans savoir vraiment ce qui me manquait. Je sais que j'ai eu une espèce de soupir intérieur, de cri intérieur, que Dieu analyse en fait. Et je l'ai su depuis que Dieu il connaît les soupirs de nos cœurs, même si des fois on ne sait pas comment prier, comment les formuler. Lui, il connaît, il sait bien ce qui se passe en nous. Je pense sincèrement que Dieu a entendu ce soupir.
À cette époque-là, Jean-Luc n'avait jamais réellement entendu parler du Seigneur Jésus. Il nous raconte maintenant sa première rencontre avec un chrétien et quelles furent ses impressions.
Dans mon travail, je travaille dans un bureau d'études, dans les temps qui ont suivi, il y a un type qui est arrivé là, alors il se disait chrétien déjà. Alors bon, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant parce que dans ma famille, parler de Dieu, c'est un peu tabou, quoi, des fois. Hein, c'est réservé à certaines cérémonies. Mais alors lui, il était chrétien, et il parlait de son Jésus, et puis il sautait pas en parachute, il faisait pas plein de choses comme moi, mais il avait l'air heureux, quoi. Il avait vraiment une paix dans sa vie, dans son regard, il avait une confiance. Hein, même s'il avait des enfants, peut-être des problèmes, il savait pas s'il allait être embauché, tout ça, etc. Des choses qui peuvent faire que les gens craquent facilement hein, et rentrent en dépression. Il avait ça, mais il était heureux. Et son bonheur, il le disait comme venant de Jésus-Christ, quoi, qu'il avait dans sa vie, et c'était ça, toute la base de sa vie. Et donc ça m'a vraiment interpellé, quoi, à ce moment-là.
Si vous voulez découvrir la manière dont la vie de Jean-Luc a été transformée par le témoignage de son nouvel ami, nous vous invitons à écouter la prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Toutefois, une leçon très importante est à retenir aujourd'hui sur ce que Jean-Luc nous a confié. Il ne faut jamais se fier aux apparences ou penser que parce qu'une personne réussit sur le plan professionnel, elle est forcément heureuse. On peut peut-être aspirer à devenir un joueur de l'équipe nationale de foot, un acteur célèbre, un chanteur populaire, un politicien connu, une personne riche, et encore, pensons atteindre le bonheur. Mais si cela arrivait, serions-nous comblés pour autant? Nous pouvons peut-être envier la position sociale de certains hommes ou femmes célèbres. Malgré tout, une chose essentielle manque à leur vie. Et certains, à cause de cela, peuvent ressentir un vide dans leur cœur, vivre sans jamais parvenir à une totale satisfaction.
Yann, vous venez de parler de ceux qui cherchent par divers moyens à mener une vie épanouie. Vous avez raison de rappeler que ce à quoi ils aspirent peut souvent s'avérer trompeur et les décevoir. De nombreuses personnes sont insatisfaites par la vie qu'elles mènent. D'autres tombent dans le désespoir, ne voyant pas d'issue à leur malheur. Tout cela suscite des questions. Pourquoi vivre? En quoi consiste une vie comblée et épanouie?
Pour donner quelques éléments de réponse à votre question, Roger nous rejoint sur le plateau. Il va nous faire part d'une méditation biblique parlant de la vie vécue avec Jésus. Hélène va lire d'abord l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10.
Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante.
Jésus a prononcé ces paroles après s'être présenté aux hommes comme le bon berger présent parmi eux. En leur expliquant qu'il est venu leur apporter la vie, oui, une vie abondante, il se compare à un berger veillant sur ses brebis pour qu'elles puissent trouver en abondance de quoi se nourrir et s'abreuver. La tâche du berger est rendue difficile dans les pays arides où la nourriture et l'eau manquent, car sous un soleil ardent, il doit conduire son troupeau dans les lieux déserts à la recherche de verts pâturages, tout en les protégeant des bêtes sauvages affamées, toujours prêtes à ravir quelques brebis. Mais en quoi consiste la vie abondante pour une brebis? Sans doute ce serait un bon repas et beaucoup d'eau fraîche. Et pour vous, que représente cette expression « la vie abondante » ? Beaucoup seraient heureux de pouvoir manger à leur faim, de jouir de sources d'eau non polluées ou d'être convenablement logés. Toutefois, nous constatons que celui qui aime Dieu ne se trouve pas forcément à l'abri de la pauvreté. Nous pouvons donc en conclure que Jésus ne parlait pas dans ce verset cité de l'abondance matérielle, même si beaucoup dans notre monde y aspirent. La réussite professionnelle, le succès dans le domaine sportif, tout comme l'épanouissement sentimental, sont aussi pour beaucoup des signes d'une vie bénie. Mais une fois encore, nous constatons que celui qui marche avec Dieu ne se trouve pas forcément à l'abri d'épreuves telles que le chômage, la solitude ou les situations de conflit. Il semble donc que la promesse de Jésus ne consiste pas à remporter des succès. Heureusement pour nous, Jésus explique, plus tard dans l'évangile de Jean, de quelle abondance il parle. Il déclare au chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Deux leçons sont à retenir de ce verset. Tout d'abord, la vie que Jésus accorde aux siens est éternelle. Elle dépasse en durée et en qualité notre vie terrestre, exposée au malheur, sujette à la brièveté et à la mort. Or, la vie éternelle commence au moment où nous croyons en Jésus, le Fils de Dieu. Et cette vie consiste à connaître Dieu, qui vit de toute éternité, et à connaître son Fils Jésus. Pour que nous puissions jouir de cette vie abondante, Jésus nous exhorte à nous réconcilier avec Dieu et à vivre avec lui une relation d'amour, sachant qu'un jour, nos yeux le verront pour l'éternité. Ensuite, la vie abondante consiste à recevoir les richesses spirituelles que Dieu accorde à ses enfants. Ainsi, l'amour de Dieu pour les hommes, sa fidélité envers nous, comme sa miséricorde et sa puissance, se voient dans nos vies. Connaître Dieu, voilà la vraie vie. Tous les biens, toutes les richesses terrestres disparaîtront un jour, mais notre connaissance de Dieu ne cessera de croître, comme notre désir de marcher avec lui jusqu'au jour où nous le rencontrerons face à face. Alors, nous jouirons parfaitement de toute l'abondance de ces bénédictions.
La prochaine fois, Jean-Luc poursuivra son témoignage et il nous parlera de Jésus.
Notre ardent désir est que vous puissiez recevoir Jésus dans votre vie et croître dans la connaissance de Dieu. Car l'adorer et le servir est notre bien.
Sur ce, je vous dis au revoir.
À bientôt.
Et que Dieu vous bénisse.